à Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du 10 avril 2019. Nathalie Barge et Abdourahmane Dia à la présentation. Voici les titres.
En République démocratique du Congo, la coalition de l'ancien président Joseph Kabila remporte largement les élections de gouverneur.
Attaque de Boko Haram à Diffa, la grande ville du sud-est du Niger.
Les combats se poursuivent près de Tripoli, réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU.
Le pape François reçoit le président sud-soudanais Salva Kiir et son opposant Riek Machar.
Législative en Israël, Benjamin Netanyahou est presque certain de conserver son poste de premier ministre.
Et juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports.
Élection des gouverneurs et vice-gouverneurs en République démocratique du Congo. Le Front commun pour le Congo de l'ancien président Joseph Kabila arrive largement en tête avec 16 gouverneurs sur les 18 élus. La coalition Lamuka de l'opposant Martin Fayulu et le cap pour le changement du président Félix Tshisekedi ne se contente que d'un seul gouverneur chacun. Le point avec Thierry Kamundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Seuls 22 des 26 assemblées provinciales ont voté pour les gouverneurs et vice-gouverneurs. Si à la Tchopo, au Olomami, au Kasaï central et dans le nord Ubangi, un deuxième tour doit départager dans les 72 heures les deux candidats arrivés en tête parce que n'ayant pas obtenu la majorité absolue, dans les autres provinces, le Front commun pour le Congo rafle la mise. 16 gouverneurs du regroupement politique de Joseph Kabila élus contre un seul de la coalition Lamuka de Martin Fayulu et un de Kash du président Félix. Félix Tshisekedi. À Kinshasa, le PPRD Gentiny Ngobila, témoin clé des violences de Yumbi qui ont fait plus de 800 morts l'année dernière dans la province du Maïndombe, a recueilli 29 voix sur les 48 votants. Zoé Kabila, le petit frère de l'ancien président Joseph Kabila, est élu gouverneur dans le Tanganyika, Richard Muyej dans la riche province du Lualaba. Sur décision du Conseil d'État, ces élections n'ont pas été organisées dans les provinces du Sankuru et du Sud Ubangi. Le Nord Kivu et le Maïndombe, eux, éliront leur gouverneur le mois prochain. Le Front commun pour le Congo de l'ancien président de la République confirme qu'il reste la première force politique de la RDC. Kinshasa, Thierry Kamboundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Le sud-est du Niger est le théâtre d'un assaut de Boko Haram depuis hier soir. L'attaque de Diffa était toujours en cours aujourd'hui avec une prise d'otage et un bilan provisoire d'un gendarme et deux djihadistes tués. Morgane Guerrier nous en dit plus.
Les assaillants, traqués par les forces de sécurité, se sont retranchés au domicile d'un gendarme et ont pris en otage plusieurs personnes, d'après un responsable de la région de Diffa, proche du nord-est du Nigeria, le berceau de Boko Haram. Aux environs de 21h35, des éléments armés de Boko Haram ont réussi à infiltrer la ville pour mener des attaques. Le bilan pour le moment est d'un sous-officier de la gendarmerie et deux assaillants tués, a-t-il déclaré. Boko Haram avait mené pour la première fois le 6 février 2015 des attaques d'envergure sur le sol nigérien. Deux villes dont Diffa et Bosso, riveraines du bassin du lac Tchad, à cheval entre le Niger, le Nigeria, le Cameroun et le Tchad, avaient été visées. Dans le seul mois de mars 2019, 88 civils ont été tués par Boko Haram au Niger, dont les attaques ont contraint plus de 18 000 personnes à fuir leur village, selon les Nations Unies. L'armée nigérienne multiplie les opérations aériennes et terrestres, mais ne parvient pas à contenir les assauts des djihadistes retranchés dans des zones marécageuses du lac Tchad et dans des localités nigérianes sous leur contrôle.
L'ONG Human Rights Watch accuse l'armée camerounaise d'avoir tué 5 civils lors d'une récente attaque meurtrière contre un village de la région anglophone du Nord-Ouest. Dans un communiqué ce mercredi, l'ONG affirme que les faits se sont produits le 4 avril et met en cause le bataillon d'intervention rapide, une unité d'élite déployée dans les régions anglophones pour y combattre les séparatistes. L'armée n'avait pas réagi dans l'immédiat à ces accusations.
En Algérie, le chef d'état-major de l'armée met en garde contre un vide constitutionnel. Le général Ahmed Gaïd Salah juge irraisonnable toute idée de gérer la période de transition en dehors des institutions. Nous avons déploré l'apparition de tentatives de la part de certaines parties étrangères de mettre à exécution leurs desseins visant à déstabiliser le pays, a ajouté le général Gaïd Salah.
Les combats s'intensifient entre les forces de Khalifa Haftar qui avancent vers la capitale libyenne et celles du gouvernement d'Union nationale basé à Tripoli à quelques heures d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur la Libye. Le point avec Irénée Hermanoumbo.
Après de violents affrontements autour de la caserne du 4e bataillon à Azizia, les forces armées ont pris le contrôle de la caserne, a indiqué le bureau média du maréchal Haftar sur sa page Facebook. La même source affirme que plusieurs membres des forces pro-gouvernement d'Union nationale auraient été appréhendés et leurs armes saisies. Les forces du maréchal Haftar semblent avancer sur deux axes, par le sud et le sud-est, tandis qu'à l'ouest, la route côtière est défendue avec force par les troupes loyalistes et à l'est par les combattants de la ville de Misrata. À une trentaine de kilomètres au sud de la capitale, l'aéroport international de Tripoli, inutilisé depuis des combats en 2014, est aussi le théâtre de combats. Des combats font rage également à une dizaine de kilomètres au sud-est de Tripoli, où des tirs à l'arme lourde ont été entendus dans le secteur d'Aïd Nzara. Des habitants ont fait état de barrages de sable érigés par les forces pro-gouvernement d'Union nationale pour bloquer les principales artères et carrefours, empêchant les civils de quitter leur foyer et de trouver refuge ailleurs.
Le président sud-soudanais Salva Kiir et son opposant Riek Machar ainsi que les autorités ecclésiastiques se sont retrouvés au Vatican pour une retraite spirituelle pour la paix dans leur pays. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Cette retraite de deux jours se tient à la maison Sainte-Marthe, la résidence hôtelière où loge le pape François. Avant d'être accueilli au Vatican, le président Salva Kiir s'est entretenu avec le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte. À la maison Sainte-Marthe, il va retrouver cinq membres de la présidence du Soudan du Sud qui doivent diriger le pays à compter du 12 mai en vertu d'un accord de partage du pouvoir. Le Vatican a confirmé l'arrivée du chef rebelle et vice-président désigné, Riek Machar. Les autorités ecclésiastiques seront représentées par les huit membres du Conseil des Églises du Soudan du Sud. La rencontre s'achèvera demain par un discours du pape François, suivi d'un dîner. En septembre 2018, messieurs Kiir et Machar ont signé à Addis Abeba un nouvel accord de paix prévoyant un partage du pouvoir pour mettre un terme à plus de 5 ans d'une guerre civile qui a fait plus de 380 000 morts et poussé plus de 4 millions d'habitants à fuir leur foyer. Le pays a sombré dans le conflit en décembre 2013 lorsque Salva Kiir a accusé Riek Machar, son vice-président, de fomenter un coup d'État. Exilé à Khartoum, ce dernier a prévu de revenir à Djouba en mai dans le cadre de l'application de l'accord de paix.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou devrait former le prochain gouvernement en s'appuyant sur les autres partis de droite et religieux à l'issue des législatives d'hier où il a obtenu 65 sièges sur 120 au Parlement. Et Kiabadou nous en dit plus.
Benjamin Netanyahou devrait assumer un cinquième mandat, fort d'une majorité anticipée de 65 sièges sur 120 au Parlement, entre son parti, le Likoud, et ses alliés potentiels, dont bon nombre soutenaient déjà son précédent gouvernement. Cette victoire probable de Netanyahou inquiète les dirigeants palestiniens, le premier ministre israélien ayant annoncé pendant la campagne être prêt à annexer les colonies israéliennes de Cisjordanie. Le président israélien Reuven Rivlin pourrait se tourner vers M. Netanyahou pour lui demander de former un gouvernement. Les services du président ont indiqué qu'il commencerait dimanche à consulter les représentants des partis pour écouter leurs recommandations. La quasi-totalité des partis de droite ont dit après les élections qu'ils soutiendraient M. Netanyahou. Les résultats finaux des élections devraient être publiés d'ici jeudi, les votes des soldats, diplomates et prisonniers n'ayant pas encore été comptés. Mais il ne devrait pas modifier les grands équilibres.
Les 27 membres de l'Union européenne devraient une nouvelle fois convenir d'un report du Brexit lors d'un sommet spécial dont les conditions restent à définir. À son arrivée à Bruxelles, la Première ministre Theresa May a déclaré vouloir que son pays puisse partir d'une façon ordonnée et sans heurts le plus tôt possible. Madame May affiche toujours sa préférence ne pas participer aux élections européennes, ce qui est important, c'est que toute extension nous permette de partir au moment où nous ratifions l'accord de retrait, a-t-elle dit.
L'Irak a proposé aux pays membres de la coalition anti-djihadiste de juger leurs ressortissants soupçonnés d'avoir rejoint le groupe État islamique en échange d'au moins 2 milliards de dollars. Un millier de djihadistes étrangers sont aux mains des forces kurdes de Syrie. Paris n'a pas encore mis en œuvre le plan de rapatriement des djihadistes français et de leurs familles. Bagdad se réserverait le droit de réclamer ensuite plus d'argent pour couvrir les frais engendrés par leur détention, a indiqué un officiel irakien.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et c'est Morgane Guiriette qui nous présente la Minute Éco.
Le constructeur automobile Nissan investira 213 millions de dollars pour accroître sa capacité de production en Afrique du Sud. C'est ce qu'a annoncé la filiale sud-africaine de la société. Grâce à cet investissement, le constructeur japonais veut développer ses nouveaux modèles Navara, visant à desservir le marché interne sud-africain, mais également celui d'autres pays. Cela devrait permettre d'accroître sa capacité de production à 30 000 unités et générer 400 nouveaux emplois. Et les nouvelles productions sont prévues pour démarrer d'ici 2020. Le secteur automobile, qui est l'un des piliers de l'économie sud-africaine, représente 7% du PIB. Ce mardi, le FMI a baissé d'ailleurs ses prévisions de croissance pour l'Afrique du Sud à 1,2%. Le Fonds monétaire international annonce que l'économie égyptienne devrait enregistrer une croissance de 5,5% en 2019, soit un taux identique aux estimations de l'institution datant d'octobre dernier et de 5,9% en 2020. En contrepartie d'un programme d'aide de 12 milliards de dollars du FMI, l'Égypte a lancé en 2016 des réformes destinées à redynamiser son économie après les troubles consécutifs à la chute en 2011 du régime du président Hosni Moubarak. Ces réformes, parmi lesquelles figure une dévaluation sévère de la monnaie nationale, des coupes dans les subventions énergétiques et l'instauration d'une taxe sur la valeur ajoutée, ont permis de revigorer les finances publiques et doper la croissance économique, tout en provoquant une montée en flèche de l'inflation et de la pauvreté.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
La suite de la Ligue des Champions ce soir.
Oui, Manchester United de l'Ivoirien Eric Bailly reçoit le Barça de Lionel Messi en quart de finale aller pour un classique du foot européen souvent spectaculaire. Dans l'autre rencontre au programme de cette soirée, la miraculeuse Juventus Turin s'attaque à la jeunesse dorée de l'Ajax Amsterdam avec sa meilleure arme Cristiano Ronaldo. CR7 s'est blessé fin mars en sélection portugaise, mais il va mieux et est parmi les titulaires selon son entraîneur Massimiliano Allegri.
Le Milan AC risque une nouvelle sanction.
Oui, d'après l'UEFA, le Milan AC n'a pas respecté l'équilibre financier sur les trois dernières années, tel que le veut la règle du fair play financier. La chambre d'enquête de l'instance a alors décidé de soumettre le dossier du Milan AC à la chambre de jugement. Le club italien, déjà sous la menace d'une exclusion des compétitions européennes, pourrait donc se voir infliger une nouvelle sanction financière ou sportive. En juin 2018, il avait été exclu de la prochaine édition de la Ligue Europa pour non-respect des principes du fair play financier. Mais en juillet, le tribunal arbitral du sport a cassé cette décision, autorisant ainsi le club à disputer la Coupe européenne.
Football féminin, on connaît les affiches du premier tour des éliminatoires des Jeux olympiques.
Oui, les matchs retour du premier tour ont pris fin hier. Cette deuxième étape marquera l'entrée en lice de 7 pays, exemptés du tour précédent, dont le Nigeria, l'Afrique du Sud ou encore le Zimbabwe. On aura droit, entre autres, à un Ghana-Gabon avec les Panthères, auteurs d'un exploit retentissant mardi devant le Congo. Ailleurs, l'Algérie sera face au Nigeria et la Côte d'Ivoire jouera le Mali. Les matchs de ce deuxième tour seront joués en aller-retour du 23 août au 3 septembre, puis un troisième tour sera disputé. À l'issue de cette dernière étape, 4 pays obtiendront leur ticket pour la phase finale du tournoi de football des Jeux Olympiques Tokyo 2020.
Nouveau contrat pour le sélectionneur de la République démocratique du Congo.
Et oui, alors qu'il est toujours dans l'attente d'un contrat de longue durée depuis la fin du dernier en février 2018, Florent Ibengué va une nouvelle fois bénéficier d'un contrat d'objectif. L'annonce a été faite par Barthélémy Okito, secrétaire général au sport de la République démocratique du Congo. Nous avons décidé de faire signer un contrat de 4 mois au staff de la sélection congolaise avec pour objectif de gagner la CAN 2019. Ensuite, nous verrons s'il faudra le reconduire d'une ou deux années supplémentaires, a déclaré M. Okito, ajoutant que si Ibengué ne remplit pas cette mission, lui et son staff seront remerciés.
Merci beaucoup Yakuba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Nathalie Barge et Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour.
Une semaine de deuil national au Rwanda pour commémorer le 25e anniversaire du génocide des Tutsis. Plus de 800 000 personnes ont été massacrées en 100 jours à partir du 7 avril jusqu'au 17 juillet 1994. Nous revenons aujourd'hui sur le rôle des médias dans cette tragédie à travers un entretien de notre envoyé spécial à Kigali, Idriss Fall, avec Jean-François Dupaquier, journaliste et historien, auteur de plusieurs ouvrages sur le génocide.
Le rôle des médias était important à partir des années 1991-1992 lorsqu'a été créé le pluralisme des médias. Mais vous savez que le premier média de la haine, Kangoura, a été créé dès le début de l'année 1990. Il s'est montré particulièrement virulent après l'attaque du Front Patriotique le 1er octobre 1990 et a été en quelque sorte le phare de ces médias de la haine qui ont distillé leur venin dans la population pour inciter à tuer finalement les voisins Tutsis.
Mais le plus connu, c'était plutôt la Radio des Mille Collines, non ?
Oui, mais la Radio des Mille Collines est apparue plus tard. Elle est apparue en juillet 1993, à la veille de la signature des accords d'Arusha, et elle est devenue spécialement virulente à partir de la tentative de coup d'État au Burundi en octobre 1993. Et là, on voit bien un média typiquement d'incitation à la haine, d'organisation de cette incitation, et puis au moment où le génocide commence, d'animation du génocide, car la RTLM va être la grande animatrice sonore du génocide, alors que les autres médias de la haine ont pratiquement disparu.
Les journalistes qui exerçaient dans ces médias, ils sont où maintenant ? Je sais qu'Hassan Gezé a été arrêté, jugé, et les autres ?
Les journalistes, alors la plupart ont réussi à s'échapper, mais quelques-uns emblématiques ont été arrêtés, à commencer bien sûr par Ferdinand Naïmana, le fondateur de la RTLM, qui a été jugé, condamné, et puis récemment qui est sorti de prison au Cameroun. Hassan Gezé a été condamné lui aussi, n'est pas sorti de prison. Georges Roudjou, l'éditorialiste de la RTLM, a effectué pratiquement toute sa peine et a été libéré en fin de peine en Italie et il se trouve actuellement en Belgique, peut-être sous un nom d'emprunt car il ne veut plus parler de cette affaire et personne ne le voit plus. Et puis quelques-uns des journalistes sont morts au Congo pendant la guerre du Congo.
En France, il n'y en a aucun qui est là-bas, notamment Madame Abiyarimana qui a apparemment financé la radio des Mille Collines.
Elle et son mari sont parmi les financiers plus ou moins caché de la radio des Mille Collines. Au départ, ils devaient même être les principaux financiers, puis après, ils se sont un peu dissimulés derrière d'autres protagonistes, comme Félicien Kabouga, comme des hauts militaires. Mais elle n'est pas elle-même une journaliste, elle est simplement une personne qui a sans doute joué un rôle, mais qui reste à déterminer exactement dans l'organisation du génocide.
25 ans après, est-ce que vous pensez que le Rwanda est dans le droit chemin par rapport à la liberté de la presse ? Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de liberté de la presse aujourd'hui au Rwanda.
On est sorti d'une période extrêmement difficile, comme vous l'avez dit, de médias de la haine qui incitent la population à une sorte de suicide collectif, parce que c'est bien ainsi qu'on peut qualifier le génocide. Il est certain qu'aujourd'hui au Rwanda, la presse ne bénéficie pas de la liberté d'un certain nombre de pays démocratiques. On peut le regretter, mais je pense quand même qu'il y a eu des progrès ces dernières années.
C'était l'historien Jean-François Dupaquier qui a notamment été expert auprès du Tribunal pénal international pour le Rwanda, dont le mandat a pris fin officiellement fin 2015.
Un RDC, large victoire aux élections de gouverneur pour la famille politique de l'ancien président Joseph Kabila. Déjà 18 de 20 provinces dont les résultats sont connus ont été remportées par le FCC, le Front commun pour le Congo. D'où la question de savoir comment le président Félix Tshisekedi, qui n'a qu'une seule petite minorité, qu'une très petite minorité plutôt, aux assemblées nationales et provinciales ainsi qu'au Sénat, peut mettre en application sa politique. Pour un élément de réponse, Eddie Sango a joint l'éditeur du quotidien La Prospérité. Il s'agit de Marcel Ngoï.
C'est sans surprise le résultat auquel on assiste là. Aujourd'hui, ça devient clair que c'est le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila qui contrôle toutes les provinces de la République et que s'y met un peu en contradiction le discours du président Félix Tshisekedi qui tient à déboulonner le système qu'il a trouvé. Alors que du point de vue du pouvoir exécutif, tout lui échappe.
Maintenant qu'on a la majorité de gouverneurs venus du FCC, quelle pourra être la marge de manœuvre pour le président de gouverner et d'appliquer sa politique, de déboulonner les systèmes dictatoriaux comme il l'a dit lui-même?
S'il veut déboulonner, il doit s'assurer de l'appui de ceux qui lui ont appliqué ou institué ces systèmes, ce qui serait, à mon sens, une niaiserie politique. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un avec qui vous avez un deal politique que vous allez déboulonner le système qui est en place, alors que vous, du point de vue de l'exécutif, vous n'avez vraiment pas de levier de commande pour pouvoir déboulonner. Regardez, il y a aujourd'hui la majorité des gouverneurs qu'on vient de dégager appartient au FCC. À l'Assemblée nationale, là où on vote les lois, la majorité appartient au FCC. Au Sénat, c'est la même chose. Alors, moi, je crois qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus prévisible que s'il faut que le président Félix dirige le pays, il doit accepter de se saborder dans cette coalition que Joseph Kabila avait pourtant annoncé. Il faut absolument le faire dans la cohésion, dans la discussion, et le faire avec la participation. Mais faire le contraire, ça serait difficile parce qu'il n'en a vraiment pas les moyens.
Ces résultats tombent au lendemain, quelques jours après la déclaration du président Félix Tshisekedi, qui a d'ailleurs suscité des réactions de la part du FCC. Maintenant, aujourd'hui, avec ces résultats, dans quel état est cette entente?
Je conseillerais qu'à ce stade, le président Félix puisse adopter un profil bas, un profil qui d'un homme réaliste qui devra tenir compte des rapports de force. Disons que la formation de la coalition n'empêche pas que les gens aient des différences, des convictions, que les gens aient des différences, des idéologies, que les gens aient des actions et des approches qui soient tout à fait spécifiques. Donc, autrement dit, l'unité dont il s'agit ici dans la coalition, ça doit être l'unité dans la diversité. Ça doit être une unité basée sur le principe, sur les objectifs communs à atteindre à court, moyen et à moyen et à long terme. Donc ce n'est pas forcément le fait d'abdiquer aux convictions personnelles. Le président Félix Tshisekedi s'est battu 37 ans dans le cadre de son parti l'UDPS. Il ne manque pas d'idéologie et de convictions personnelles. Mais ce dont on parle ici, c'est de pouvoir transcender les différences pour privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Et à ce niveau-là, il y a un effort à fournir parce qu'il s'agit de sauver la République.
C'était Marcel Ngoï, éditeur du quotidien La Prospérité en République démocratique du Congo.
Raissa Girondin avec vous. Cette semaine, Washington Forum braque les projecteurs sur la révolution numérique en Afrique. Avec la forte progression de la téléphonie mobile, le déploiement du haut débit et l'émergence de start-up, le continent innove à grande vitesse malgré de nombreux obstacles. Quelle est la place de l'Afrique dans le monde de la nouvelle technologie? Quels sont les enjeux? Le digital peut-il vraiment apporter des solutions concrètes au quotidien? L'Afrique pourrait-elle servir de modèle au reste du monde? Quelles sont les limites à ce miracle numérique? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h en temps universel.
Des initiatives se multiplient au Togo pour mieux protéger l'environnement. La dernière en date est le marché du recyclage et de la valorisation, Mareva, qui était à sa première édition le week-end dernier à Lomé. Notre correspondante Kay Lawson s'y est rendue. Voici son reportage.
Le marché du recyclage et de la valorisation, Mareva, est une forme de vide de grenier qui ne concernait que le vestimentaire pour cette première édition. Le concept vise non seulement à donner une nouvelle vie à ces effets vestimentaires, mais aussi limiter le gaspillage pour une meilleure protection de l'environnement. Judith Larré est la promotrice du Mareva.
La préoccupation première de Mareva, en fait, c'est la préservation de notre environnement d'abord. C'est aussi de promouvoir la consommation rationnelle et surtout d'éviter le gaspillage. Ici, le coût maximum des articles, c'est 5 000 francs. Ils sont en train d'accéder à de la qualité, mais à moindre prix. C'est là que ça devient vraiment intéressant.
Pour cette jeune dame, Mareva va jouer valablement son rôle de recyclage.
Une très très bonne initiative. Ça permet vraiment de recycler. Il y a des trucs dont les gens n'en ont pas besoin. Or, pour certains, c'est vraiment un truc de ouf. Donc, c'est une très bonne chose.
Des habits, chaussures et sacs sont bradés à des prix préférentiels. Pour trouver la perle rare, il faut s'abaisser et fouiller. Au bout de l'effort, Olivier Yao, un visiteur, sourire aux lèvres, dit avoir fait de bonnes affaires.
J'ai pu trouver quelques habits et des pantalons.
Alors, à combien ?
L'habit, j'ai trouvé à 2000 et les pantalons à 500. J'ai vu de bonnes choses et j'ai aimé beaucoup l'initiative.
C'est aussi le cas de Chimène Clévor, rencontrée sur le marché du recyclage et de la valorisation.
On a pu trouver des rots à 500, à 200 et les chaussures, j'ai pu en trouver à 2000, même à 1000 francs. On ne peut pas vraiment gagner ces genres d'articles à ce prix-là au marché ou bien dans d'autres boutiques, non. C'est vraiment abordable, très abordable.
Un pari gagné pour ces deux jours du Mareva, la prochaine édition, prévue en juillet 2019, devrait offrir plus d'articles, notamment de l'électroménager, du mobilier et des jouets pour enfants. Kay Lawson pour VOA Afrique, Lomé.
Rendons-nous à présent au Cameroun, précisément à Kié aussi, à la frontière avec la Guinée équatoriale. Cette ville paie le plus lourd tribut de la récente fermeture de la frontière par les autorités équato-guinéennes. Notre correspondant Emmanuel Jultap s'est rendu sur place pour mesurer l'impact de cette mesure touchant les commerçants. Reportage.
À la frontière terrestre entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, les imposants immeubles aux toitures rouges sur le territoire équato-guinéen frappent l'œil du visiteur. Une architecture moderne que les Camerounais admirent à un jet de pierre à partir du poste frontalier de Kiyoussi. Cependant, les habitants du côté camerounais se plaignent de l'absence de circulation des biens et personnes entre les deux pays. Marie-Madeleine Efouba est commerçante à Kiyoussi depuis 8 ans.
Nos activités allaient quand même reprendre, mais finalement, cela s'est éteint. Nous ne voyons plus rien. Mon comptoir est complètement ouvert et ça ne fait que ralentir vraiment mes activités.
Samedi, jour du marché à Kiyoussi. Plus de 5 heures après l'ouverture du marché, des sacs d'avocats, de tomates, de gingembre ou encore de basilic attendent désespérément des preneurs. Assise derrière un comptoir de produits de première nécessité, Nafissa Tou dit vivre le pire moment de sa vie dans cette localité où elle réside et pratique le commerce depuis 4 ans.
Avant que je suis arrivé ici, je vendais, mais maintenant ce n'est plus comme avant.
Ibrahim Tapon est un vendeur de tomates installé à Kiyoussi depuis 2008, à une période où la frontière terrestre Cameroun-Guinée équatoriale était ouverte en permanence. Aujourd'hui, ces activités sont en chute libre.
On est en train de passer vraiment une étape difficile sur les 4 dernières années. Pourquoi ? Parce qu'à chaque moment, on ferme la frontière, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Parfois, même, il y a les chutes, surtout ici, au niveau du vieux frein. Il y a des fois que les gens, peut-être, quand ils s'apprêtent à amener les marchandises, le grand matin, on nous annonce qu'on a fermé la frontière. Et dans ces moments, les marchandises pourrissent. On est en train de traverser une étape difficile à Kiyoussi. Le marché ne tourne plus. Et on est endetté partout. Beaucoup de nos frères sont en prison parce qu'ils ont beaucoup de dettes.
En fin janvier dernier, les autorités camerounaises et les commerçants de Kiyoussi avaient accueilli avec joie la réouverture de la frontière terrestre entre le Cameroun et la Guinée équatoriale après un an de fermeture. Mais cette joie n'a duré que quelques semaines. Les autorités administratives de la ville de Kiyoussi encouragent désormais les populations à diversifier l'économie locale pour ne plus dépendre du flux des échanges avec la Guinée équatoriale. Ce à quoi s'attelle Aristide Ngassa Ambende. Il a mis sur pied un projet agro-pastoral et piscicole avec pour objectif de vendre désormais sur le marché local.
La production agro-pastorale a une plus-value et peut se vendre pendant que les frontières sont fermées. Et d'ailleurs, Le plus grand marché d'Afrique centrale, c'est le Cameroun, parce que nous avons la population. 30 millions de population ne peuvent pas être comparées à 800 000 personnes.
Selon les autorités camerounaises, les recettes douanières au poste de Kiosi sont passées de 70 à 40 millions de francs CFA par mois après la fermeture de la frontière terrestre entre le Cameroun et la Guinée équatoriale en 2018. Emmanuel Jountap, de retour de Kiosi pour VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Georges Léonard Sagnot. À la console, Patrick Beillard. À la présentation, c'était Nathalie Barge et Abdourahman Dia.
Ainsi va le monde. Aujourd'hui, on reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
VOA Afrique, les infos.